Salut à toutes et à tous, j'espère que vous êtes bien au chaud pour écouter Radio Campus Amiens. On est ensemble le temps d'un Info Club Sandwich, votre quotidienne d'actu locale et associative. Je suis accompagnée de Rémi et de Victor derrière la console.
Coucou.
Vous allez bien ?
Ça va super et toi ?
Ouais, impeccable. Tu es venu comme chaque jour à vélo, donc respect total.
Oui, ça glisse, attention.
On débute l'émission avec un sujet réalisé par Colline et Romane. Elles se sont rendues au salon de l'étudiant qui se tenait à Amiens le week-end dernier. Elles y ont fait le plein de rencontres et d'interviews. On s'écoute ça tout de suite.
Rendez-vous incontournable pour les lycéens et lycéennes. Le salon de l'étudiant battait son plein ce week-end. Et avec l'ouverture de Parcoursup ce 15 janvier, c'était un événement à ne pas manquer, selon Sylvie Beauvois, l'organisatrice du salon de l'étudiant d'Amiens.
En quoi est-ce que c'est important pour les jeunes un salon de l'étudiant ?
Eh bien, surtout celui-ci, c'est un salon de l'orientation, dédié à l'orientation. Donc c'est très important dans la vie des jeunes, puisqu'ils vont préparer leur futur. Donc c'est très important de venir se renseigner. Ici, on va trouver essentiellement de l'information et des rencontres avec des jeunes qui sont en école, qui sont ambassadeurs de leur école, et puis des experts de l'éducation qui vont les aider à faire un choix éclairé pour leur futur.
Est-ce que les jeunes viennent facilement au salon de l'étudiant ou est-ce que c'est vraiment un gros travail de communication, de sensibilisation ?
Effectivement, c'est un travail de sensibilisation, mais enfin, ils le sont bien parce que, effectivement, avec Parcoursup, ils sont bien obligés de venir à la recherche d'informations et à la rencontre des écoles. Donc, c'est un travail de notre part organisateur de communication, mais ils viennent de deux façons, via les écoles avec leur classe. Et ils viennent en individuel, souvent poussés par les parents. Les parents représentent 40% de notre visitorat.
Est-ce qu'il y a des formations qui sont plus demandées que d'autres ?
Alors oui, bien sûr, il y a des phénomènes de mode. À un moment, c'était le numérique, la santé, la police. C'est un peu aussi au gré de l'actualité. Mais je dirais que la meilleure orientation, le meilleur choix, c'est celui que l'on va faire en venant rencontrer les gens sur le salon et en se faisant sa propre idée. Hein, parce qu'une mauvaise orientation, ben, c'est bien dommage, ça conduit à rater sa scolarité. Donc il faut venir pour faire son choix de manière éclairée.
Vous l'aurez compris, beaucoup d'exposants étaient présents pour guider les jeunes en quête d'orientation. L'occasion donc pour nous de déambuler parmi une large palette de formations, dont celle sur l'ingénierie, en nous demandant finalement qu'est-ce qu'un ou une ingénieur.
Donc je suis Myriam Bamoumen, je suis maître de conf à l'école d'ingénieurs Jules Verne, qui est affiliée à l'université de Picardie Jules Verne. Je pourrais vous parler un peu de l'ingénieur en logistique, parce que c'est un peu ma spécialité. Donc un ingénieur en logistique, il peut intervenir dans, disons, donc, différentes parties de ce qu'on appellera la chaîne logistique. Donc ce sont les différentes parties donc, qui interviennent dans la fabrication et l'expédition donc, des produits, donc, selon donc, les demandes des clients. Vous avez donc dans une entreprise, on retrouve tout ce qui est donc achat des matières, donc tout ce qui est production, fabrication des produits, et puis tout ce qui est stockage, emballage et expédition des produits. Donc un ingénieur logisticien, il peut intervenir sur ces différentes parties-là de la chaîne logistique. Donc son travail est de gérer donc le flux de matières qui circule au sein de cette chaîne-là, mais également on y retrouve également un flux d'informations. Donc le logisticien va devoir gérer tout cela de manière efficace, donc de manière à satisfaire par exemple la demande des clients, tout en disons réduisant, réduisant donc les coûts qui seront engendrés par les différentes parties. Donc tout ce qui est par exemple surtout au niveau de la production et également au niveau de la production de la distribution. Et j'ajouterai à cela donc, le terme innovante, donc logistique innovante, ben, ça sera l'ingénieur logisticien sera amené à adapter et à utiliser donc, les technologies donc, qui sont présentes au sein de la logistique de l'entreprise. Donc, tout ce qui est, par exemple, big data, tout ce qui est IA, donc les technologies donc, qui sont présentes actuellement au niveau des entreprises, il sera amené à utiliser tout cela pour justement gérer efficacement ces flux-là.
Il n'y a pas que le terme ingénieur qui est vague, car pour les lycéens, lycéennes et leurs parents, c'est Parcoursup qui interroge.
Alors nous, on est venus parce qu'on était à la recherche des informations pour l'avenir de notre enfant. Il est qu'en première, donc il se cherche un peu pour son métier futur. C'est pas toujours évident parce que nous aussi, c'est lointain. Donc on est en train d'essayer de se remettre un peu au goût du jour et à savoir un peu comment ça fonctionne maintenant.
Oui, ça me stresse un peu. Et je me dis, c'est bientôt et j'ai encore pas d'idée. Donc c'est un peu grave.
Il y a beaucoup de monde. Donc tout le monde nous interpelle un peu par-ci par-là, donc des fois on passe de commerce à de la santé, du social, etc. Moi j'étais venue pour du social, donc pourquoi pas éduc spécialisé. Mais on a eu des trucs de management, et au final, pourquoi pas.
Mais Benoît Louvet, chef d'établissement du lycée hôtelier Saint-Martin, tient à rassurer.
D'accepter l'idée d'être patient, c'est-à-dire qu'on le sait, chaque année, on peut avoir des étudiants qui, le jour de la diffusion des résultats de Parcoursup, peuvent se voir non pris en liste prioritaire. Il ne faut pas oublier que très vite, des étudiants prennent d'autres options, prennent d'autres choix et qu'il y a une deuxième rotation, enfin une deuxième moulinette qui fait que les affectations, elles se font globalement assez facilement derrière. Donc la patience et de se dire que de toute façon, on trouvera toujours des solutions.
Quel débouché après les formations ?
Alors, c'est vrai que dans l'hôtellerie et la restauration, c'est une profession qui recrute énormément. Donc, la totalité de nos étudiants qui terminent avec le BTS trouvent un emploi. Alors, selon l'option qu'ils ont suivie, soit c'est en manager d'une unité de restauration, donc chef de cuisine, ça peut être chef de rang, diriger une équipe de serveurs, ou alors tout simplement être dans le monde de l'hôtellerie, d'un hôtel, en conciergerie, en accueil et en réception.
L'hôtellerie n'est pas le seul secteur en demande. La santé aussi, notamment chez les sages-femmes. Erine, en deuxième année, revient en détail sur ce parcours.
Qu'est-ce que c'est concrètement la formation devenir sage-femme ?
Alors pour devenir sage-femme, il va falloir passer par la première année d'études de santé, donc via une LAS ou une PASS. Et donc via un de ces deux cursus, on peut arriver à être admise en deuxième année de sage-femme. Du coup, la PASS, c'est vraiment un parcours axé spécifique santé avec vraiment des matières à 90%, plus une petite licence à côté, une mineure. Alors que la LAS, ce sera l'inverse, donc une grosse licence de 90% que vous choisissez comme matière, philosophie, économie, etc. avec 10% de matières scientifiques et médicales du coup, qui vous permettront après d'avoir les bases pour la deuxième année de sage-femme. Et donc sage-femme, ça fait partie des filières MMOPK, donc qui est appelée sage-femme, c'est en fait la maïeutique. Et donc voilà, vous choisissez maïeutique entre médecine, kiné, odonto, pharma, etc.
Et concrètement, ça représente combien d'étudiants et étudiantes ?
La maïeutique dans une promo de passe. Alors, pour notre cas, en fait, en sage-femme à Amiens, en tout cas, dans une promo de passe, il y avait 20 places. 20 places en passe et en LAS, c'est à peu près pareil, 20 places. Parce que vous avez les mêmes chances, en fait, d'accéder en sage-femme, que ce soit en LAS ou en passe.
C'est vraiment égalité des chances, donc.
Exactement, c'est ça. C'est le but de la LAS et de la passe, en fait.
Et finalement, c'est combien de temps la formation pour devenir sage-femme ?
Mais du coup, on est la première année, il y a eu une réforme cette année et on sera les premières doctorantes de maïeutique. Donc maintenant, c'est un doctorat en fait, donc c'est 6 ans d'études. Donc on comprend la PASS ou la LAS bien évidemment. Et donc on va avoir la deuxième, troisième année et puis on va commencer les stages, etc. Puis après en quatrième, cinquième année, les stages s'intensifient et à la sixième aussi. On va découvrir ce qui se passera à la sixième année parce que pour l'instant, c'est encore un peu flou vu que c'est l'année de la réforme. Mais donc voilà, 6 ans d'études et ensuite à la fin, on sera doctorante de maïeutique. Et puis après, dans notre cursus, en fait, on ne s'arrête jamais d'apprendre en santé. Et notamment, nous, on peut continuer avec des DU, des DU d'échographie, de sexologie, d'allaitement, etc. Il y a vraiment plein de choses et plein de métiers.
Tu peux juste préciser ce que c'est DU ?
Alors pardon, les DU, c'est les diplômes universitaires qui s'ajoutent à déjà, par exemple, le diplôme de doctorante en maïeutique.
On a aussi rencontré la directrice de l'école.
Une petite question sur sage-femme. Sage-femme, donc on pense tout de suite que c'est adressé aux femmes comme métier, mais vous avez aussi des hommes ?
Oui, quelques-uns. Alors, ils sont rares. Hein. En France, c'est 6% des sages-femmes qui sont des maïeuticiens, qui sont des hommes. Sur Amiens, là, ils sont deux dans nos, sur nos quatre promotions d'étudiants.
Vous l'expliquez comment ? Vous pensez que c'est un manque de communication ?
À mon avis, c'est une question de représentation, surtout de représentation sociale. Hein. Déjà, rien que par le nom, on parle de sage-femme. Hein. Donc, alors, quand on parle de sage-femme, c'est la femme qui est sage hein, et ce n'est pas le professionnel. Mais les représentations font que c'est un métier qui a une image féminine.
Qu'est-ce que vous diriez pour donner à toutes et à tous envie de rejoindre l'école ?
Ah ben, je pense que le métier de sage-femme est un métier très, très complet et qui... à la fois permet de vivre des moments très importants avec les couples, avec les femmes. Alors il y a des fois des choses qui... Le plus souvent, ça se passe bien. Parfois, des événements difficiles à vivre. Mais donc, par les moments qu'on passe hein, avec les couples, avec, avec les mères, avec les femmes, en santé aussi génésique, en suivi gynéco, il y a à la fois des moments très intenses et ponctuels et à la fois du suivi dans la longueur qui peut s'instaurer quand on fait un suivi gynécologique, par exemple. Et puis, je pense que la diversité aussi d'exercices, que ce soit en hospitalier, en libéral, de pratiques, puisqu'il y a la consultation prénatale autour de la grossesse, mais il y a aussi des échographies qui sont possibles. Il y a le suivi gynécologique, donc ça fait beaucoup, beaucoup d'attraits, en fait, et de facettes dans le métier de sage-femme.
Justement, vous le disiez, il y a des événements difficiles par moment à gérer. Est-ce que ça, on l'apprend un petit peu est-ce qu'on a des cours psychologiques, de psychologie, par exemple, pour apprendre à mieux appréhender ces situations ?
Bien sûr, bien sûr. Dès la deuxième année, les sujets sont abordés autour du deuil, hein, mais du deuil. Alors, en première année, il y a des soins généraux dans tous les services de l'hôpital. Donc, la mort dans les services hospitaliers peut être rencontrée, et en maternité aussi. Donc, il y a à la fois la notion de la mort en général et du rapport au corps en général, et en particulier du deuil périnatal, bien sûr.
Est-ce que, également, vous sensibilisez vos étudiants et étudiantes hein, aux violences gynécologiques, qu'elles soient verbales ou physiques ?
Bien sûr. Je pense que c'est autant par rapport au moment de la vie qu'on partage en tant que sage-femme et qu'on accompagne. Il y a une hypersensibilité et qui est logique par rapport à la vie, par rapport à la mort. Donc je pense que c'est très important pour nous que les sages-femmes soient formées, comme les autres professionnels de santé d'ailleurs, hein, soient formées à cet accompagnement, à cette écoute et puis au poids des mots qu'on utilise. Parce que parfois, ce n'est pas du tout intentionnel, hein, mais il faut y faire attention. Donc dès le début de la formation, la relation soignant-soigné et la différence de justement qui s'instaure le déséquilibre qui s'instaure dans cette relation est mise en avant pour montrer le poids des mots. Et puis jusqu'en dernière année, on fait une table ronde sur les violences gynécologiques et obstétricales pour que les étudiants aient conscience que c'était pas que il y a 20 ans, mais qu'aujourd'hui encore, hein, tout un chacun peut être porteur de mots mal placés ou de gestes mal placés et que il faut y être attentif ensemble en fait. Et que les circonstances, parfois, la charge de travail, la gestion du stress, peuvent être des facteurs qui font qu'un professionnel devienne maltraitant à un moment donné et que tout un chacun doit être acteur pour que ça arrive le moins possible et quand ça arrive, pouvoir intervenir.
Et si vous n'avez pas eu l'occasion de vous rendre au salon de l'étudiant, il existe quelques outils pour vous aider comme le site de l'ONICEP, de Parcoursup, de l'étudiant et les portes ouvertes de certains établissements ce 25 janvier.
On en parlait hors micro avec Rémi, je pense qu'il a un bon souvenir de ces salons de l'étudiant, contrairement à moi qui ne l'ai jamais connu, donc voilà.
C'est le fameux concept du marronnier, même si c'est important d'y aller. C'est vrai que je suis très content d'avoir passé le flambeau cette année à Romane et Colline qui se sont très bien débrouillés et
carrément.
À qui je lâche une petite dédicace.
Bon, avant de vous parler des actus que j'ai trouvées pour vous, on va écouter comme chaque jour un titre choisi par la team Radio Campus Amiens. Aujourd'hui, c'est toi Rémi qui nous propose le titre de ton choix.
Oui, ce matin j'avais envie d'écouter un titre qui s'appelle The Ballad of Johnny Butt du groupe Sublime, qui est un groupe de ska-punk californien des années 90 que j'ai écouté dans tous les sens, tous les albums. J'adore ce groupe. Et par ailleurs, je pense que c'est un projet qui aurait pu aller un peu plus loin si le chanteur et headliner du groupe n'était pas décédé de manière un peu prématurée,
ouais, ça,
comme beaucoup
chiant.
D'artistes des années 90. On s'écoute ça tout de suite.
Vous êtes toujours sur Radio Campus Amiens 87.7 et vous écoutez Info Club Sandwich, votre quotidienne d'actu locale et associative. Alors justement, aujourd'hui, les actus, on commence avec les 9e nuits de la lecture organisées par le Centre National du Livre qui se tiendront du 23 au 26 janvier partout en France. Cette année, le thème porte sur les patrimoines. À Amiens, la librairie Martel et les librairies d'en haut vous invitent, je cite, à un moment convivial et créatif mêlant imagination, découverte et partage. Le temps d'un après-midi, les enfants auront l'opportunité de fabriquer leurs propres marionnettes. Vous l'aurez compris, c'est le patrimoine culturel de la région qui sera mis à l'honneur, notamment celui des célèbres personnages des Chez Cabotan d'Amiens, symbole du théâtre traditionnel Picard. Puis, les jeunes participants pourront se détendre autour de lectures choisies sur le thème, bien sûr, des patrimoines. L'animation se terminera avec un goûter et ça se passe le 25 janvier à 14h30 jusqu'à 17h à la librairie Martel, 3 rue des Vergeaux à Amiens. L'animation s'adresse aux enfants de 5 à 10 ans pour un tarif unique de 10 euros. Les libraires vous conseillent de vêtir vos enfants de vieux vêtements. Et c'est sur inscription par mail à inscription au pluriel @librairiemartel.com. Je reprends mon souffle, je suis super enrhumée, donc je suis désolée pour mon débit, c'est juste horrible. Je respire, 2 secondes.
C'est voilà. Des choses qui arrivent.
Ouais, carrément. Surtout cette saison. Alors, un peu de jazz avec le concert de Das Capital le 22 janvier à 19h30 au Conservatoire à rayonnement régional d'Amiens Métropole. Il y a 20 ans, le batteur français Édouard Perrault, le saxophoniste allemand Daniel Erdmann et le guitariste danois Poulsen, tu sais pas ?
Poulsen ?
Non, mais le prénom.
Ah, je ne sais pas. Hans Poulsen ?
Non, c'est As. Bon, bref. Décidé d'unir leur singularité musicale pour former Das Capital. Au fil des productions, le trio le plus européen de la scène jazz a confirmé son originalité créatrice en abordant à la fois le répertoire de Hans Elsler, la musique française de l'ère baroque à Claude François et le jazz débridé des clubs les plus free. Il fallait bien un album d'improvisation, de composition spontanée, comme ils se plaisent à les décrire, pour marquer leur anniversaire. Enregistré à Amiens, sous la bannière Label Bleu, ce nouveau répertoire est une ode à la liberté de créer et d'écouter. Le concert sera précédé de masterclass publiques. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Infos et réservations sur www.maisondelaculture-amiens.com. Rémi, comme je l'ai expliqué au début de l'émission, tu utilises ton vélo pour venir bosser. Jamais tenté par l'achat d'un vélo électrique ?
Pas pour le moment, parce que je suis en forme et que j'essaie de réduire au maximum mes émissions de gaz à effet de serre et quoi qu'il arrive, la batterie
crée. Ouais, carrément.
Mais je peux comprendre qu'on tente un vélo électrique quand on est un petit peu moins sportif ou qu'on a des plus longues distances à parcourir, puisque j'habite littéralement à 2 minutes en vélo de Radio Campus Amiens. Ce serait un petit peu abusé de sortir le vélo électrique pour ça.
La ville d'Amiens, pour ceux qui sont intéressés, sachez qu'elle reconduit son aide à l'achat d'un vélo à assistance électrique. Cette aide s'élève à 25% du prix d'achat du 2 roues. Donc elle est plafonnée à 200 euros. Bon, c'est pas énorme, mais bon, c'est toujours bon à prendre. Et pour en bénéficier, il faut être amiénois et acheter son vélo électrique auprès d'un commerçant d'Amiens Métropole avant le 31 décembre 2025. Il y a également le bonus vélo, qui est l'aide proposée par l'État. Cette dernière s'adresse aux personnes avec des revenus fiscaux de référence ne dépassant pas 15 400 euros par part. Ok, alors ça c'est un peu nébuleux pour moi, mais bon, bref, pour ceux qui ont des revenus les plus faibles. Vous pouvez retrouver la liste des pièces à fournir pour ces deux aides sur amiens.fr. Bon voilà, c'était un peu laborieux, désolé pour ces brèves. C'est tout pour aujourd'hui. Comme d'habitude, on se quitte en musique avec un titre choisi cette fois-ci par Colline, Night of Passion des Poodles. Alors régalez-vous. Salut.
Salut, à plus. Never fear.